Salutations à tous. C'est un réel plaisir de pouvoir enregistrer ce sermon pour la fête des pains sans levain. Je crois qu'il sera diffusé le premier jour. J'espère que vous avez ou vous passez un merveilleux jour saint. Et c'est toujours une telle joie si excitant et si significatif d'observer les jours saints, surtout en ces temps-ci. Il semble qu'alors que le monde devient fou autour de nous, les jours saints sont une bouffée d'air frais, et c'est merveilleux de les vivre et de les observer chaque année. Nous observons le premier jour des pains sans levain, qui nous rappelle la sortie d'Égypte par les Israélites. D'autre part, nous vivons aujourd'hui à la fin des temps. Quelle pourrait être la similitude entre notre époque actuelle et un événement qui s'est déroulé ou produit il y a environ 3400 ans, la sortie d'Égypte par les Israélites? Il y a sûrement rien de semblable dans notre environnement, notre situation, nos circonstances, ou y a-t-il des similitudes? En fait, il y en a beaucoup. Et comme nous répétons chaque année à cette époque, nous traversons vraiment beaucoup de circonstances similaires, même si des millénaires nous séparent. Alors que les Israélites sortaient d'Égypte, de l'esclavage, ils se dirigeaient vers une terre promise. Nous sortons également d'une époque très sombre et nous sommes dans une période de transition, attendant avec impatience d'entrer dans le royaume, d'entrer dans l'ère du millénium, lorsque le royaume de Dieu régnera sur la terre. Il existe donc de nombreux parallèles. Commençons par Lévitique 23. Lévitique 23, versets 1 à 7. Lévitique 23, versets 1 à 7. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de 5 convocations. Voici quelles sont mes fêtes. » Verset 4. Voici les fêtes de l'Éternel, les 5 convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du premier mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez des pains sans levain pendant 7 jours. Et le premier jour, vous aurez une 5 convocations, vous ne ferez aucun ouvrage ou aucune œuvre servile. Ainsi, nous observons le premier jour des pains sans levain, et Dieu a préservé ces jours. Il a préservé cette compréhension. Et si vous y pensez, pendant des générations, pendant des décennies, des siècles et même des millénaires, c'est un miracle en soi que nous soyons au courant de ces événements et que nous ayons une trace écrite de ce qui s'est passé et que nous puissions l'étudier et comprendre et que nous puissions aussi être encouragés par ce qui s'est passé lorsque les Israélites sortirent d'Égypte. Tout comme nous sommes en train de sortir de notre propre Égypte, nous sortons du péché et nous sommes sur le point d'entrer dans un monde nouveau. Maintenant, lorsque nous pensons à certaines des choses qui se sont produites, certaines personnes qui ont vécu à cette époque n'ont peut-être pas eu l'impression que c'était une histoire si encourageante. Ils ont pu avoir l'impression qu'il y avait beaucoup de temps dur, beaucoup de difficultés, et je pense que nous pouvons être d'accord avec cela. Mais Dieu les a délivrés encore et encore, et nous voyons beaucoup de détails qui, lorsque nous les regardons aujourd'hui, peuvent être un encouragement. Donc, le titre de mon sermon est « L'Exode est un encouragement pour les temps de la fin ». L'Exode est un encouragement pour l'état de la fin. Nous mettrons en lumière plusieurs des choses qui sont arrivées aux Israélites et nous verrons comment ces récits peuvent nous apporter ou peuvent se rapporter à nos vies aujourd'hui, des choses que nous affrontons et que nous traverserons. Cela nous aidera à apprécier de plus en plus la façon dont Dieu intervient dans nos vies maintenant et en attendant qu'il intervienne à l'avenir, même à ces temps de la fin. Considérons donc plusieurs situations différentes dans lesquelles nous pouvons nous trouver, tout comme les Israélites l'ont fait. La première situation dans laquelle nous pouvons nous trouver, comme ils l'ont fait. Numéro 1. Et celle où les choses empirent avant de s'améliorer. Vous savez, il arrive que nous espérions ou attendions avec impatience que les choses s'améliorent, et pourtant, à court terme, elles empirent. Et cela pourrait être décourageant. Parlons un peu de l'histoire de Moïse retournant en Égypte. Après avoir passé 40 ans de formation dans le désert, et il revient en Égypte pour apporter un merveilleux message, pour expliquer aux enfants d'Israël qu'ils allaient être libérés. Et nous lisons cela dans Exode 4, versets 29 à 31. Exode 4, versets 29 à 31. Et notez, Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin, et ils assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël, et Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse, et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Et le peuple crut, ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leur souffrance, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Voici l'introduction de l'histoire. Voici ce qui s'est passé lorsque Moïse est revenu avec de bonnes nouvelles pour les enfants d'Israël, qui avaient été esclaves. Moïse était revenu avec un message. Vous serez libres. Vous ne serez plus esclaves. Vos prières ont été exaucées. Et pensez à la joie qu'ils ont dû ressentir. Ils allaient quitter l'Égypte. Ce long cauchemar allait prendre fin. Et c'est l'introduction à cette partie de l'histoire. Les enfants d'Israël étaient en esclaves et Moïse était revenu avec de bonnes nouvelles. Vous avez été esclaves, vous allez maintenant être libérés et vos prières ont été exaucées. Et pensez à comment ils étaient excités. Ils étaient pour laisser ou quitter l'Égypte et leur cauchemar était fini. Et maintenant, remarquez dans Exode 5, verset 1, après que Moïse et Aaron se rendirent auprès du Pharaon et lui dirent « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. » Et bien sûr, Pharaon était tellement ravi et excité. Il leur a même proposé de leur prêter des chariots, des chevaux, des chars et des gardes, n'est-ce pas? Eh bien, pas exactement. Nous connaissons l'histoire, et ce n'est pas du tout la façon dont il a réagi. En fait, il dit au verset 2, « Pharaon répondit, « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix, en laissant aller Israël? » Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. » Alors ils expliquèrent que l'Éternel, le Dieu des Hébreux, les avait rencontrés et disait qu'ils devaient faire 3 jours de voyage dans le désert pour sacrifier à l'Éternel. Et continuons maintenant au verset 4 à 9. Et le roi d'Égypte leur dit, « Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. » Pharaon dit, « Voici, ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui feriez interrompre ses travaux? » Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires, « Vous ne donnerez plus, comme auparavant, de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant, vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. » Voilà pourquoi il crie en disant « Allons offrir des sacrifices à notre Dieu, que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent, et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonge. » Avez-vous parfois l'impression que votre patron est un problème? Avez-vous parfois l'impression d'avoir un emploi sans avenir? Eh bien, que diriez-vous si vous aviez Pharaon comme patron? Je dirais que l'Israélite était dans une situation difficile, n'est-ce pas? C'était un travail sans issue. En fait, cela ne menait nulle part et ça empirait. Ils pensaient qu'ils allaient être délivrés, mais au lieu de les laisser partir, Pharaon leur dit, « Tu remplis l'esprit de ces gens avec des paroles qui les distraient. Ils ont manifestement trop de temps à perdre. Ils peuvent ramasser leur propre paille, et moi je vais aggraver la situation. » Donc, dans Exode 5, versets 14 à 19, il est écrit: « On bâtit même les commissaires des enfants d'Israël, établis sur eux par les inspecteurs de Pharaon. Pourquoi, disait-on, n'avez-vous pas achevé hier et aujourd'hui, comme auparavant, la quantité de prix que vous avez été fixée? Les commissaires des enfants d'Israël allaient se plaindre à Pharaon et lui dire: « Pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs? On ne donne point de paille à tes serviteurs, et on nous dit: « Faites des briques. » Et voici, des serviteurs sont battus, comme si ton peuple était coupable. » Et Pharaon répondit: « Vous êtes des paresseux. » Voilà pourquoi vous dites: « Allons offrir des sacrifices à l'Éternel. Maintenant, allez travailler. On ne vous donnera point de paille et vous livrerez la même quantité de briques. » Les commissaires des enfants d'Israël virent qu'on les rendait malheureux, en disant: « Vous ne retrancherez rien de vos briques. Chaque jour, la tâche du jour. » Ils avaient des problèmes. Ils avaient de gros problèmes. Maintenant, vous pourriez dire: « Je pensais qu'il s'agissait d'un sermon sur l'encouragement. » Eh bien, c'est le cas. Mais les choses régressent, ils ne progressent pas. Car parfois, les choses régressent pendant un certain temps avant de s'améliorer. Parfois, les choses empirent et ne s'améliorent pas, alors que nous sommes en train de quitter ce monde. Et nous sommes en train de sortir de l'Égypte spirituelle. Nous sortons de l'esclavage et nous avons un avenir brillant devant nous. Mais le Dieu de ce monde ne veut pas nous laisser aller, ne veut pas nous laisser partir. Pas plus que Pharaon ne voulait pas que les enfants d'Israël partent. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour les en empêcher. Et le Dieu de ce monde fera de même avec nous. Le fait est que les Israélites étaient dans une situation horrible, et parfois nous pouvons être découragés parce que les choses ne s'améliorent pas. En fait, elles empirent. Nous entendons parfois des reportages au sujet d'employeurs qui harcèlent leurs employés en raison de leurs croyances religieuses. M. Wasson le mentionne dans la lettre courrière du 18 février 2021. Et je cite: « Ma secrétaire Monica m'a transmis ce court message qu'elle a reçu d'un collègue de travail ici, dans nos bureaux à Charlotte. Ma sœur a démissionné de son emploi bien rémunéré de gérante chez... » Puis elle cite une franchise internationale de café bien connue. Elle est partie après qu'il lui a été imposé de rechercher et de recruter des gays et des transsexuels. Ils devaient aussi bénéficier d'un traitement spécial. Ils sont acclamés et mis sur un piédestal. Elle a répondu que c'était contraire à son éthique morale. » Fin de la citation. Et donc, elle a dû rechercher un autre emploi. Et plus récemment, la question de la vaccination est devenue un point sensible pour certains ayant des problèmes avec leur emploi. Notre monde devient de plus en plus difficile à naviguer. Pas plus facile, à bien des égards. Un membre m'a récemment raconté qu'elle était retournée à l'université et qu'elle suivait un cours où le professeur a d'abord demandé « Qui est chrétien ici? » Et une poignée de personnes ont levé la main. Puis le professeur a commencé à les réprimander et à critiquer leur religion. En gros, pendant tout le trimestre, ils étaient une proie facile, un sac de boxe, et c'était une situation horrible. Pourquoi parler de cela? Eh bien, pour montrer que ce genre de situation ne disparaîtra pas. Comme M. Weston l'explique de temps en temps, c'est la nouvelle normalité. C'est ainsi que les choses se passent. Nous allons devoir vivre avec ça, sans faire de compromis, sans renoncer. Nous allons devoir traverser des périodes difficiles, sans nous laisser influencer, sans nous laisser changer. Nous allons devoir nous en accommoder. Nous allons devoir persévérer et de ne pas nous décourager, ne pas nous laisser aller à la colère, comme le monde autour de nous le font. Les Israélites étaient dans une mauvaise situation. Qu'auraient-ils dû faire? Ils auraient dû crier à Dieu pour obtenir de l'aide, de la compréhension, de la miséricorde, de la patience. Mais qu'ont-ils fait? Ils ont blâmé le messager. Exode 5, versets 20 et 21, « En sortant de chez Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les entendaient, et ils leur dirent que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs, et vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. » Quelques jours auparavant, ils louaient Moïse comme un homme merveilleux, comme un libérateur, comme celui qui les sauverait de tous leurs problèmes. Et maintenant, regardez comment il lui parlait. C'est toi le problème. C'est toi qui as causé toutes ces difficultés. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi fais-tu cela? Et nous savons que ce n'était pas la faute de Moïse. Mais combien de fois voyons-nous cela, même à notre époque moderne, parfois même dans l'Église? Lorsque nous avons une épreuve inattendue dans l'Église, certaines personnes finissent par blâmer le ministère. Parfois, les gens en viennent à blâmer les dirigeants. Et pourtant, c'est une épreuve que nous devons tous traverser. Parfois, c'est quelque chose d'extérieur qui nous est imposé et nous devons y faire face. Donc, Moïse est allé vers Dieu et Dieu a répété ce qu'il allait faire et comment il allait délivrer le peuple. Mais lorsque Moïse est retourné vers le peuple, remarquez comment ils ont réagi. Exode 6, verset 9. Exode 6, verset 9. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël, mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Est-ce que quelque chose d'imprévu pourrait se produire à l'avenir, une force extérieure que nous ne voyons pas encore venir sur nous, qui nous ferait subir un stress immense? Est-ce que, pour une raison quelconque, nous finirons par perdre confiance dans les dirigeants que Dieu a placés sur nous dans l'Église? Nous devons être très prudents. Dieu a résolu cette situation. Mais cela a pris un peu de temps. Il a fallu un peu de patience. Mais Dieu l'a résolu. Quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous pouvons mettre notre foi et notre confiance en Dieu, et franchement, la lecture de cette histoire peut être très encourageante pour nous qui vivons à une période difficile et sombre, juste avant le retour du Christ. Parfois, à notre époque, nous pouvons nous trouver dans des situations où les choses empirent au lieu de s'améliorer, et nous devons être patients. Nous devons nous tourner vers Dieu, nous devons demander son aide, et il nous guidera et nous délivrera. Dans quelle autre situation pouvons-nous nous trouver de nos jours? Une deuxième situation dans laquelle on peut se trouver, c'est d'avoir le dos au mur. Nous sommes acculés au pied du mur. Après que les Israélites eurent quitté l'Égypte, Pharaon les poursuivit et, selon la tradition, ils arrivèrent à la mer Rouge le dernier jour des pains sans levain. Et nous trouvons ce récit dans Exode 14. Versets 8 à 11. Exode 14, versets 8 à 11. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tsephon. Et Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel, et ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? » À nouveau, il blâme Moïse. Avant de nous en prendre trop durement aux Israélites, comprenons qu'il s'agissait d'un problème réel. Les coups de fouet des maîtres de corvée étaient réels. Les fouets et les coups étaient réels. Le fait que l'armée de Pharaon fonçait sur eux était réel. Le manque de paille pour les briques était réel. Voilà, c'était les seules choses qu'ils pouvaient voir et il n'y avait aucun moyen de s'en échapper. Comment agirions-nous dans une telle situation? Je ne le sais pas. Et ensuite, au verset 12, « N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert? » J'ai toujours pensé qu'ils avaient inventé cela, mais peut-être qu'ils ne l'ont pas inventé. Arrêtez-vous un instant et souvenez-vous, il y a quelques minutes, nous lisions dans Exode 6, verset 9, comment, lorsqu'ils devaient faire des briques sans paille, ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël, mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Vous savez, peut-être ont-ils dit à Moïse, les choses n'ont fait qu'empirer depuis ton arrivée. Laisse-nous tranquilles. Laissez-nous en Égypte. Nous ne voulons pas faire partie de ce que tu fais. Va-t'en. Il est bien possible qu'ils aient dit cela. Mais remarquez, dans Exode 14, versets 13 et 14, Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder à ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Allons, maintenant, mettons les choses au clair. Ils ont la mer dans le dos, les montagnes de chaque côté, et l'armée du Pharaon qui leur fonce dessus, et Moïse qui dit « Tout va bien se passer! » C'est encourageant, non? Voyez-vous un thème se développer? Je pense que nous le pouvons. Dans un sens, comprendre les situations horribles dans lesquelles se trouvaient les Israélites. C'est véritablement horrible. Ils étaient acculés au mur, mais ils se sont améliorés. Et c'est là l'essentiel. Dieu est intervenu, et je pense que nous pouvons être encouragés par ce fait lorsque nous sommes nous-mêmes dos au mur. Aujourd'hui, nous lisons la suite de l'histoire jusqu'à la fin, et il est facile de passer sous silence ce qui arriva réellement. Mais lorsque nous avons le dos au mur, de différentes manières, c'est horrible et nous le ressentons, n'est-ce pas? Que ce soit un problème financier, un problème familial, un problème personnel ou un problème professionnel. De nos jours, que se passe-t-il autour de nous? Nous voyons la société s'effondrer. L'immoralité est qualifiée de droiture. Et ceux qui veulent faire ce qui est juste, être de plus en plus persécutés pour le faire. Nous voyons la division et la controverse. Nous voyons la confrontation. Nous voyons une mentalité de foule. Et nous voyons qu'à un moment donné, la persécution s'abattra sur nous individuellement et collectivement dans l'Église. Où va notre monde? Que se passe-t-il lorsqu'une société s'effondre? Ce à quoi nous sommes confrontés? À quoi ressemble l'implosion d'une nation? Vous savez, nous vivons une époque difficile, et elle deviendra de plus en plus difficile. C'est pourquoi ces jours de fête sont encourageants, parce que nous sommes encouragés par ce qu'ils ont traversé. Nous pouvons être encouragés par le fait que, lorsque les choses ont empiré pour eux, au lieu de s'améliorer, lorsqu'ils étaient dos au mur, dans les deux cas, Dieu est intervenu. Dieu a tout arrangé. Moïse avait confiance en Dieu. C'est vraiment étonnant quand on regarde l'exemple de Moïse, parce qu'il ne savait pas exactement comment Dieu allait s'y prendre, et pourtant il avait confiance. Remarquez à nouveau Exode 14, verset 13. Exode 14, verset 13. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. » Et remarquez le verset 15. L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi s'écrie? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. » Nous connaissons la suite de l'histoire. Les Égyptiens les ont suivis dans la mer Rouge et ils ont été noyés. Et les Israélites furent sauvés comme Dieu l'avait dit qu'il le ferait. Mais jusqu'à ce moment-là, il y eut des moments où ils avaient le dos au mur. Qu'est-ce que cela a à voir avec notre époque? Y aura-t-il une époque, même à la toute fin, où nous serons dans des situations très difficiles et où Dieu délivrera miraculeusement l'Église, son peuple fidèle et zélé? Absolument. Et nous y reviendrons plus tard dans le sermon. Parfois, les interventions de Dieu ne sont pas les grands miracles de la mer Rouge. Parfois, il s'agit de situations privées qu'il arrange pour nous lorsque nous sommes au pied du mur, comme je le disais plus tôt. Vous savez, nous pensons parfois aux victoires au sens large, mais nous pouvons aussi y penser en termes de petits encouragements. Lorsqu'il nous donne la victoire sur le péché, lorsqu'il nous aide à surmonter des difficultés dans notre vie personnelle, lorsqu'il ouvre la mer Rouge, il veut que nous avancions. Dans notre vie personnelle, nous pouvons vaincre par le sang de l'agneau, comme il est dit dans l'Apocalypse. Nous nous sommes examinés avant la fête des pains sans levain. Alors que nous le faisons, nous devons penser, peut-être y a-t-il quelque chose que je dois faire différemment. Peut-être il y a des domaines dans ma vie où j'ai grandi, où j'ai fait des progrès, et je peux le voir, et je suis encouragé. Mais cet autre domaine ici, j'ai vraiment besoin de m'y concentrer pour aller de l'avant et changer. Et dans l'examen de conscience, Dieu ne veut pas que nous restions coincés dans une boucle de dégoût de soi. Parfois, je pense que nous pouvons mal comprendre l'examen de soi et penser qu'il s'agit de se détester. Ce n'est pas le cas. Dieu veut nous délivrer. Dieu veut nous libérer. Mais en cours de route, il peut y avoir des épreuves. En cours de route, il y a des moments où nous pouvons avoir l'impression d'être dos au mur et que toutes nos options sont fermées. Mais Dieu nous aidera à passer au travers. Quelle est l'une des étapes dont vous avez déterminé qu'elle devait être franchie? Peut-être s'agit-il d'un changement dans vos relations avec les autres, votre conjoint, vos enfants, votre patron, vos collègues de travail, vos frères ou vos sœurs dans l'Église. Une petite chose que vous pouvez faire différemment, eh bien, c'est le moment de le faire, ce changement, et d'aller de l'avant. Peut-être avez-vous ralenti dans certains aspects de votre vie spirituelle. Peut-être que vous ne priez pas ou que vous n'utilisiez pas la Bible autant que vous le devriez. Peut-être que vous ne restez pas aussi proche de Dieu que vous le devriez. Et c'est le moment de dire, bon, il faut vraiment que j'intensifie mes efforts. Tout ne dépend pas de mes efforts, je le comprends, mais je dois faire plus d'efforts pour chercher Dieu, rester proche de lui, être avec lui, marcher avec lui, demander son aide dans toutes les situations. Peut-être que c'est ce que vous devez faire alors que vous traversez ces situations difficiles. Peut-être vous avez un problème personnel avec lequel vous vous battez, un Goliath personnel avec lequel vous devez lutter. Quelles actions devez-vous prendre pour faire ce pas en avant? Maintenant, ces questions, ces histoires, ces événements historiques dans l'Exode peuvent être des parallèles et nous encourager alors que nous faisons face à des épreuves à la fin des temps, parce que c'est exactement ce qu'ils traversaient à leur époque. Il y a beaucoup de parallèles. Ainsi, alors que nous sortons de notre Égypte, et que nous marchons vers la terre promise, notre entrée dans le royaume de Dieu et le règne millénaire de Jésus-Christ sur cette terre, nous devons, lorsque les choses empirent avant de s'améliorer, lorsque nous sommes dos au mur, nous devons avoir la foi que Dieu nous délivrera quand même. Troisième point, une autre situation dans laquelle nous pouvons nous trouver, c'est lorsque l'argent manque et que les choses essentielles manquent. Lorsque l'argent manque et que les choses essentielles manquent. Prenez l'exemple de Exode 17. Exode 17, il s'agit bien sûr de la traversée du désert par les Israélites. Exode 17, versets 1 à 4. Donc, dans Exode 17, versets 1 à 4, donc au verset 1, « Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse, et ils dirent, « Donne-nous de l'eau à boire. » Et Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? » Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous as-tu fait monter hors de l'Égypte, pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? » Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. » Et au fur et à mesure que nous continuons de lire l'histoire, Dieu dit à Moïse de prendre un bâton, puis de frapper le rocher. Dans ce cas, il a été commandé de frapper le rocher, et c'est ce qu'il fit, et de l'eau en sortit pour que le peuple puisse boire. Mais au verset 7, nous lisons, « Et il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba, parce que les enfants d'Israël étaient contestés, et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, « L'Éternel est-il au milieu de nous, ou n'y est-il pas? » Vous savez, c'est une accusation forte. Dieu est-il avec nous, ou non? Maintenant, encore une fois, considérons la réalité. Il s'agissait de vrais problèmes. Ils n'avaient pas d'eau. Ils étaient dans une situation grave, dans le désert et sans eau. J'ai vécu à Tucson, en Arizona, pendant un certain temps, et c'est un sérieux problème que de marcher dans le désert sans eau. C'est une situation vraiment difficile. Mais Dieu allait les tester. En fait, en revenant un peu en arrière à Exode 16, verset 4, Exode 16, verset 4, nous lisons, L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma voie. » Dieu allait les mettre à l'épreuve et nous retrouvons ici ce même thème, que les choses empirent avant de s'améliorer. Parfois, nous sommes dos au mur avant d'être délivrés. Parfois, l'argent et les choses essentielles manquent avant que nous obtenions les bénédictions. À nouveau, nous pouvons nous mettre à leur place. C'était difficile. Ne nous inquiétons-nous jamais de l'avenir? Aujourd'hui, dans les nouvelles, nous entendons parler d'hyperinflation et nous voyons déjà l'inflation s'installer. Que se passera-t-il si nous ne pouvons pas nous permettre ou s'il devient de plus en plus difficile de nous permettre de satisfaire nos besoins fondamentaux en matière de nourriture, de logement, de vêtements, de transport et d'eau? Encore une fois, les tendances dans notre pays ne vont pas dans la bonne direction. Lorsque j'étais enfant, nous avions un ami de la famille qui avait séjourné en Allemagne entre la Première et la Seconde Guerre mondiale et qui avait vu les effets de l'hyperinflation. Un temps où il fallait, comme il le disait, une brouette pleine d'argent pour acheter une miche de pain. Et c'était réel. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qu'il a vécu. Pourquoi avons-nous besoin d'en parler? Parce que la réalité est que notre nation est en train de s'effondrer et que nous allons imploser. Et que durant la grande partie de notre histoire, au moins de l'histoire récente, l'avenir a toujours été plus brillant. Durant la majeure partie de notre histoire, ou du moins de ceux d'entre nous qui sont en vie, la mentalité est, eh bien, la prochaine génération aura une meilleure situation que nous. Elle sera mieux lotie. Mais en ce moment, il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles pour la prochaine génération, parce que les choses vont dans la mauvaise direction. Frères et sœurs, c'est pour cela que nous devons lire le récit de l'Exode. C'est pourquoi nous avons besoin des jours saints, pour raconter leur voyage hors d'Égypte, hors de la servitude, hors de l'esclavage et les difficultés qu'ils ont rencontrées en chemin? Alors que nous regardons notre voyage hors de l'Égypte spirituelle. Ce monde est en transition et se rapproche du retour de Christ. Mais il y a les douleurs de l'enfant de mort qui se produisent maintenant et qui vont augmenter. Nous pouvons être encouragés par ce que nous lisons et par la délivrance qu'il reçut. Psaume 78, reportons-nous à Psaume 78. Nous lisons ici certaines choses au sujet des Israélites. Le Psaume 78 est un résumé intéressant de l'expérience des Israélites lors de leur sortie d'Égypte et de ce que Dieu fit pour eux. La lecture de ce psaume nous aide à nous rappeler à qui nous avons affaire, qui est vraiment Dieu, qui est notre Sauveur, quelle puissance il possède réellement et quelles sont les choses qui sont importantes pour lui. Lorsque nous sommes confrontés à des défis, nous ne savons pas exactement ce qui nous attend au prochain virage. Nous ne savons pas pourquoi nous sommes dos au mur. Nous ne savons pas pourquoi la situation empire avant de s'améliorer. Nous ne savons pas pourquoi nous avons du mal à mettre de la nourriture sur la table. Il est important que nous comprenions qui est Dieu, la puissance qu'il a et la miséricorde qu'il a. Remarquez Psaume 78, verset 12 à 20. Psaume 78, verset 12 à 20. Devant leur père, il avait fait des prodiges au pays d'Égypte, dans les campagnes de Tsaon. Il fendit la mer et leur ouvrit le passage, il fit dresser les eaux comme une muraille. Il les conduisit le jour par la nuée, et toute la nuit par un feu éclatant. Il fendit le roc dans le désert, il donna à boire comme des flots abondants. Du rocher, il fit jaillir des sources, et couler des eaux comme des fleuves. Mais ils continuèrent à pécher contre lui, et à se révolter contre le Très-Haut dans le désert. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur, en demandant de la nourriture selon leurs désirs. Ils parlèrent contre Dieu. Ils dirent, « Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? » Voici, il a frappé le rocher, et des eaux ont coulé, et des torrents sont répandus. Pourrait-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? Ils ont testé Dieu, même s'ils avaient vu ce qu'il faisait. « Oh oui, Dieu a fait telle chose dans le passé. » Mais j'ai un problème en ce moment. Que fera-t-il pour moi maintenant? Frères et sœurs, nous devons toujours garder à l'esprit qui est Dieu, ce qu'il fait, combien puissant il est, combien il prend soin de nous, et combien il nous délivrera lorsque nous nous tournons vers lui et que nous marchons avec lui. Nous devons nous rappeler qui il est. Combien difficile est-ce que ce fut pour Dieu de faire le soleil ou de façonner la surface de la terre? Combien difficile est-ce pour Dieu, comme il est question dans Job, de dire aux vagues puissantes, « Vous vous arrêtez ici! » Qui peut faire cela? Qui peut façonner les montagnes? Il y a quelques années, nous avons fait une randonnée dans les montagnes et j'ai été frappé alors que nous franchissions certaines de ces collines et que nous regardions une magnifique vue sur des crêtes de montagnes par le fait que nous construisons de grandes et étonnantes choses en tant qu'humanité, des villes et des gratte-ciels. Mais lorsque vous sortez dans la nature et que vous faites un peu de randonnée, vous voyez tout ce que nous construisons n'est rien comparé aux plus petites choses que Dieu a construites. Les montagnes ne sont qu'une petite partie de la planète entière, qui n'est elle-même qu'un point minuscule dans notre système solaire. Et notre système solaire n'est qu'un point dans la galaxie, et la galaxie n'est qu'une petite partie de l'univers entier. À qui avons-nous réellement affaire? Quel est le pouvoir réel de Dieu? Peut-il pourvoir une table dans le désert? Peut-il prendre soin de nous? Croyons-nous qu'il puisse prendre soin de nous? C'est contre cela que les Israélites ont trébuché à maintes reprises. Remarquez versets 36 à 42. Mais il le trompait de la bouche, il lui mentait de la langue. Leur cœur n'était pas ferme envers lui, et il n'était pas fidèle à son alliance. Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Il retient souvent sa colère, et il ne se livre pas à toute sa fureur. Il se souvint qu'il n'était que chair. Malgré leur attitude, malgré leur rébellion, leur contestation, leur manque de foi et leurs accusations contre lui et Moïse qu'il avait envoyé, il a reconnu qu'il n'était que chair. Il a donc pardonné, car ils étaient un souffle qui s'en va et ne revient pas, que de fois ils se révoltèrent contre lui dans le désert, que de fois ils l'irritèrent dans la solitude, ils ne cessèrent de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël, ils ne s'en souvèrent pas de sa puissance. Pourrions-nous être coupables de limiter Dieu? Quand vous repensez à l'histoire des briques et de la paille, encore une fois, je ne veux pas prendre à la légère la difficulté de leur situation, mais qui était leur libérateur? Qui a créé les matériaux pour les briques? Qui a créé la paille? Leur libérateur? Ce n'était pas Moïse. C'était Dieu qui allait les délivrer. Dieu était-il capable de les aider à traverser cette épreuve? Maintenant, je sais, quand vous êtes celui qui doit faire les briques sans paille, c'est toujours plus difficile. C'est beaucoup plus facile d'en parler comme lorsque nous ne sommes pas la personne qui vit cette situation. Mais vraiment, Dieu n'était-il pas capable de pourvoir à leurs besoins? Peut-être avons-nous parfois vécu ce genre de situation, où il nous semble que les choses ne bougent pas, où il n'y a aucune solution. Nous ne voyons pas comment, à la fin du mois, nous aurons assez d'argent pour payer toutes les factures. Pourtant, si nous mettons Dieu en premier, et si nous efforçons vraiment de le servir en priorité, tout s'additionne, tout arrive. Si nous sommes fidèles à payer nos dîmes, si nous le cherchons et nous le servons fidèlement, tout s'arrange. Combien de fois cela s'est-il produit? Le fait est que tout lui appartient. Dieu nous dit que tout l'or et tout l'argent sont à lui. Si nous avons des difficultés financières, si nous avons des factures à payer, si nous sommes confrontés à l'inflation, si ce que nous avons perd sa valeur, si l'argent que nous gagnons ne suffit pas, si nous avons des difficultés à pourvoir à nos besoins de base quotidiens, la question est « qui est notre Père? » Nous ne devons pas le limiter. Nous parlons donc de situations dans lesquelles nous nous trouvons, tout comme les Israélites à l'époque. Quand les choses empirent, alors que nous pensons qu'elles devraient s'améliorer, des situations où nous nous trouvons dos au mur, où il n'y a apparemment aucune bonne option, et où les ressources diminuent, les prix augmentent et l'argent manque. Une quatrième situation, lorsqu'il semble que nous souffrons en même temps que le monde actuel, lorsqu'il semble que nous souffrons en même temps que le monde actuel. Revenons à Exode 5. Exode chapitre 5. Si nous nous replongeons dans l'histoire de l'Exode et de ce qui se passait en Égypte avant leur départ, bien sûr, cela n'a pas bien commencé. Ils ont eu un revers. On leur a donné le même quota de briques et la paille en moins. Mais avant longtemps, Dieu commença à intervenir en Égypte et y apporter de terribles plaies. Et remarquez Exode 8, versets 16 à 20. Exode 8, versets 16 à 20. Alors que la quatrième plaie, les mouches sévit, il dit, l'Éternel dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin et présente-toi devant le Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, ainsi par l'Éternel, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer les mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Gozen, où habite mon peuple, et là il n'y aura point de mouches, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. Et l'Éternel fit ainsi. Il vint une quantité de mouches venimeuses dans la maison de Pharaon et de ses serviteurs, et tout le pays d'Égypte fut dévasté par les mouches. C'est exactement ce qui s'est passé. Et à partir de ce moment-là, comme nous le lisons, les Israélites furent protégés de toutes les autres plaies. Notre hypothèse est qu'avant ce point, les Israélites n'étaient pas protégés des plaies. Cela semble être le cas parce qu'il y a une référence très spécifique ici où Dieu allait faire une séparation. Alors, pensez-y un instant. Cela signifie que les Israélites sont passés par les trois premières plaies. Cela signifie qu'ils ont dû creuser des puits pour s'approvisionner en eau lorsque les eaux du Nil furent transformées en sang. Cela signifie qu'ils ont dû faire face aux grenouilles qui couvraient le pays. Ils ont dû faire face aux désagréments et à la puanteur. Cela signifie qu'ils ont également dû faire face aux poux. Maintenant, ce n'est pas dit spécifiquement, mais il semble que les Israélites ont subi ces trois plaies. Alors, si cela se produisait, mettez-vous à leur place. Cela n'aurait-il pas été un peu déroutant? Pourquoi souffrons-nous? Ne sommes-nous pas ceux que tu fais sortir d'Égypte? Pourquoi nous fais-tu souffrir avec les Égyptiens? Ce sont eux les méchants, nous sommes les gentils. Pensez-vous que cela ait été peut-être un peu décourageant? Frères et sœurs, nous vivons des temps intéressants, comme on nous l'a décrit. Prenez simplement la situation du COVID. Nous avons tous souffert à un degré ou à un autre à cause de cette pandémie, cette chose que Dieu a utilisée pour humilier nos nations. Et bien sûr, il y a d'autres aspects à cette pandémie, d'autres choses qui se passent aussi. Mais nous sommes au milieu de tout cela, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas à l'abri des effets de ces événements. Nous devons souffrir dans une certaine mesure à cause de ce qui se passe, et nous sommes reconnaissants à Dieu d'avoir protégé tant d'entre nous contre les effets très graves. Certains sont même morts à cause de cela, mais dans l'ensemble, je pense que ce n'est qu'un petit nombre. Et la plupart se sont rétablis et n'ont peut-être pas eu à souffrir autant que beaucoup de gens dans le monde, pour ainsi dire. Néanmoins, nous devons faire face à la vie dans ce monde, n'est-ce pas? Et parmi les choses qui surviennent dans ce monde, quelle sera la prochaine étape? Vous savez, il y a des années, l'une des choses dont M. Armstrong nous a mis en garde dans l'Église, c'était de nous préparer à réduire notre niveau de vie. Il disait que viendrait un temps où, alors que cette nation commencerait à imploser, le peuple de Dieu vivant dans ce pays et vivant partout dans le monde, parce que le monde entier sera affecté de multiples façons par notre implosion, devra être prêt et préparé à vivre avec un niveau de vie inférieur. Il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour nous mettre en garde, car nous pouvons déjà voir cela se produire autour de nous. Maintenant, Dieu prendra-t-il soin de nous? Je le crois. Est-ce qu'il pourvoira nos besoins? Je le crois. Absolument. Si nous marchons avec lui, si nous avons notre main dans sa main, si nous lui soumettons nos vies, si nous recherchons son aide, Mais allons-nous passer par certaines des difficultés que notre monde connaît et continuera à connaître? Aux États-Unis, en Europe, en Afrique, en Australie, en Asie, au Canada, en Amérique du Sud, dans les Antilles, allons-nous tous souffrir avec le monde, dans une certaine mesure? Absolument! Mais il viendra un temps où Dieu séparera son peuple. Reportons-nous à Apocalypse 12. Il semble y avoir tellement de parallèles avec ce que nous lisons dans l'Exode au sujet de la quatrième plaie, lorsque Dieu sépara le pays de Goshen, et ce que nous voyons dans Apocalypse 12. Remarquez ce qui est dit dans Apocalypse 12, versets 12 à 14. « C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Il s'agit de la persécution de l'Église, puis de la protection dans un lieu de sécurité, un lieu de refuge, un lieu de séparation pour le peuple de Dieu. » Apocalypse 12, verset 15, « Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Ainsi, il viendra un moment, à la fin des temps, où Dieu fera une séparation et mettra une protection autour de son peuple fidèle et isolé. Nous en aurons besoin, n'est-ce pas? C'est prophétisé. Cela se produira. Il le dit ici même. La seule question est de savoir si nous serons ces personnes. La seule question est de savoir si nous serons assez proches de Dieu, assez en phase avec sa volonté, assez guidés par lui, et si nous nous soumettrons assez nos vies, étant même prêts à donner notre vie si nécessaire, pour être placés sous la protection promise par Dieu à son Église pour ceux qui seront fidèles et zélés. Il a également mentionné ici que certains ne seront pas protégés, ce qui nous amène à réfléchir à la question de savoir si nous marchons vraiment avec Dieu chaque jour. Le laissons-nous vraiment nous purifier, nous changer? Sommes-nous vraiment en train de sortir du péché comme ces jours-ci nous disent de le faire? Mais c'est promis. Il est promis et prophétisé qu'il y aura une séparation. Alors, vivons-nous dans des temps difficiles? Absolument. Reportons-nous à 2 Timothée 3:1. 2 Timothée 3, verset 1, Paul écrit, « Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » La référence dans ma Bible dit « des temps de stress ». Entrons-nous dans des temps de stress? Sommes-nous en période de stress? Vont-ils empirer avant de s'améliorer? C'est ce qui est indiqué. Nous allons devoir, pendant un certain temps, fabriquer des briques avec moins de paille. Nous allons devoir, pendant un certain temps, nous trouver dans des situations où nous sommes dos au mur. Pendant un certain temps, nous devrons faire avec moins d'argent et peut-être avoir moins de choses nécessaires. Pendant un certain temps, nous devrons faire l'expérience d'un avant-goût des situations et des malédictions qui s'abattent sur nos nations parce que nous vivons dans le monde de Satan. Pendant un certain temps, nous devrons vivre cela. Mais cela ne durera pas éternellement. Dieu nous aidera. Remarquez, 1 Corinthiens 10, versets 1 à 6, 1 Corinthiens 10, versets 1 à 6. « L'apôtre Paul écrit, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont été sous la nuée et que tous ont passé à travers la mer, et qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer, et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. » Puis les versets suivants énumèrent les exemples négatifs. Et c'est un avertissement pour nous concernant des choses que nous ne devons pas faire. Verset 11. « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ces exemples sont donc là pour nous que nous tirions des leçons. » J'aimerais prendre un virage un peu différent et réfléchir à la manière dont ces exemples sont écrits pour que nous puissions voir les épreuves qu'ils ont traversées. Et même s'ils n'ont pas bien réagi, Dieu a été fidèle. Dieu les a délivrés, même s'ils avaient une vision très étroite et qu'ils n'ont pas bien réagi. Dieu avait un plan. Il avait prévu quelque chose. Et nous pouvons en tirer leçon. Nous pouvons y réfléchir. Ces exemples de la grandeur de Dieu peuvent être encourageants pour nous qui vivons à la fin des temps. Dieu nous met-il à l'épreuve? Absolument. À l'époque de l'apostasie dans l'Église universelle de Dieu, un ami et moi discutions et j'évoquais l'idée que ces choses qui arrivait était un test pour nous tous. Et il fit une déclaration. Il dit que Dieu ne met pas l'Église à l'épreuve. Dieu ne permet pas que ces choses se produisent comme un test ou comme un baromètre pour voir ce que nous ferons. Et à ce moment-là, je n'arrivais pas à mettre le doigt sur le verset en question. Mais plus tard, je l'ai trouvé. Et mon ami avait tout à fait tort. Dieu nous met à l'épreuve. Et il a testé l'Israélite, et il va mettre son Église à l'épreuve. Non pas parce qu'il nous déteste ou qu'il les détestait, mais il veut savoir ce que nous croyons vraiment et ce que nous pensons vraiment est important. Remarquez Deutéronome 8, versets 1 et 2. Deutéronome 8, versets 1 et 2. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez, que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver. Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Dieu nous humilie-t-il? Dieu nous met à l'épreuve pour savoir ce que nous pensons, ce qui est important pour nous, ce que nous ferons sous pression, ce que nous ferons quand nous aurons le dos au mur, ce que nous ferons quand les choses sembleront empirer avant de s'améliorer, ce que nous ferons quand l'argent diminuera et manquera et que les choses de première nécessité manqueront. Ce que nous ferons quand nous aurons des problèmes d'argent, que nous manquerons les choses de base, ce que nous ferons quand nous souffrirons avec le monde dans une certaine mesure, à cause de ce qui se passe, à cause du monde de Satan. Blâmerons-nous Dieu? Allons-nous nous emporter? Blâmerons-nous les dirigeants de l'Église? Allons-nous tout abandonner? Allons-nous éloigner de l'Église? Abandonnerons-nous? Dieu doit savoir ce que nous avons dans le cœur, car il est en train de nous donner la victoire sur le péché. C'est le tableau d'ensemble alors que nous sortons de notre Égypte. C'est pourquoi nous sommes ici et que nous traversons les jours des pains sans levain, en mangeant des pains sans levain, ce qui symbolise le fait de se nourrir de Jésus-Christ. Deutéronome 8, verset 3. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. L'homme ne vit pas de pain seulement. Avez-vous déjà entendu cette déclaration quelque part? C'est exactement ce que le Christ a dit lorsqu'il fut mis au test dans une horrible épreuve par Satan le diable. Pourtant, il a résisté et il fut victorieux. Notez dans Exode 12, versets 15 à 17, nous aurons besoin de force et de courage pour persévérer, mais Dieu a ce dont nous avons besoin. Il sait ce dont nous avons besoin. Il est là pour nous et il nous délivrera, pas toujours de la façon dont nous voudrions ou aussi vite que nous le voudrions, mais il assure nos arrières et il s'arrangera et il nous aidera si nous marchons avec lui. Alors, allons à Exode 12, versets 15 à 17. Exode 12, versets 15 à 17. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne ferait aucun travail ce jour-là. Vous pourrez simplement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Alors, quelle est la situation générale? Eh bien, le tableau d'ensemble est fourni par les jours saints, et c'est pourquoi ils sont si importants. C'est pourquoi il est si vital que nous observions les jours saints chaque année, parce que cela nous permet d'être rafraîchis et d'avoir l'esprit purifié et imprégné de cette vérité. Cela nous aide à réfléchir à ce qui est important, à ce qui se passe réellement, et à ce que nous vivons et à la raison pour laquelle nous le vivons. De quelle aide disposons-nous? Que devons-nous faire en attendant? Alors que nous marchons avec Dieu, nous devons nous nourrir de Christ, nous devons laisser tomber le péché, et nous devons éliminer le péché de nos vies comme nous éliminons le levain de nos maisons. La Pâque représente le sacrifice de Jésus-Christ pour nous. Il était parfait. Il n'a jamais péché. Il est donc le sacrifice absolu et parfait qui couvre nos péchés. Et pendant les jours des pains sans levain, nous mangeons des pains sans levain, parce que le levain représente le péché, et nous devons éliminer le péché de nos vies et le remplacer par le pain sans levain de la justice. Ainsi, le tableau général est que Dieu nous fait sortir du péché et nous donne la victoire, en fin de compte, pour naître dans son royaume. Mais en cours de route, frères et sœurs, il y aura des revers. Nous avons à peine commencé à lire le récit de l'Exode, mais je pense que cette histoire est tellement encourageante à lire. Ce n'est pas une fable, c'est l'histoire, et elle fut préservée pendant des milliers d'années. Elle fut écrite et préservée pour que nous puissions prendre courage et comprendre qu'il y a des moments où nous allons souffrir avec le monde. Nous nous retrouvons le dos au mur, les choses empireront avant de s'améliorer, l'argent et les ressources diminueront. Mais Dieu prendra soin de nous si nous nous tournons vers lui avec foi et confiance, et il arrangera les choses pour nous. Frères et sœurs, gardons l'esprit fixé et une vision claire de qui est Dieu, combien il est puissant, combien il est merveilleux, combien il pardonne, combien il est miséricordieux, combien il est aimant, et remercions Dieu pour cela. Car c'est ce que nous avons besoin. Dieu a un plan et il le met en exécution. Il amènera le monde entier dans une relation avec lui et il nous donne l'opportunité de le faire maintenant. Il nous a donné l'opportunité de faire partie de l'œuvre qui consiste à aider le reste du monde à entrer en relation avec lui. Si nous sommes prêts à mettre notre foi et notre confiance en lui et à marcher avec lui, que faire lorsque la vie vous envoie des balles courbes? des revers et des épreuves? Eh bien, cette fête des pains sans levain nous enseigne exactement ce qu'il faut faire.